hein, on était à Montréal pour la retraite des aspirants, puis on était vraiment une belle gang de l'Assemblée. On était une quarantaine de l'Assemblée. Et c'est une retraite. Ils ont ça à quelques années, à toutes les temps d'années, à Sembec, à Montréal. On était à l'hôtel Versailles. Puis, on était un beau groupe de l'Assemblée. Et ils sont encore là, eux. Et c'est pour ça qu'il manque un peu de monde ce matin. Là, ça finit en fait à midi aujourd'hui. Alors, ils ont un service ce matin à l'hôtel. Alors, c'est vraiment une belle rencontre pour c'est pour ceux qui aspirent. Alors, c'est en couple. Il y avait une vingtaine de couples de notre assemblée avec quelques célibataires. Des gens qui aspirent à soit aller dans l'œuvre ou devenir ancien ou certainement prendre un rôle de serviteur leader au sein de l'Église, aller un peu plus loin. Un pas de plus, ça c'était vraiment le thème de la fin de semaine, un pas plus loin. Et on a vraiment eu, un peu partout de la région, donner leur témoignage, comment Dieu a vraiment touché leur cœur pour qu'ils fassent, qu'ils autrent quelque part dans un ministère ou servir au sein de l'Église. On a vu des gens d'affaires et d'autres qui sont très impliqués dans leur Église. Il y a un frère qui a une compagnie avec plusieurs employés qui racontait comment le Seigneur avait touché son cœur pour qu'il puisse vraiment soutenir, non seulement avec l'argent, mais soutenir de son temps. Un gars très occupé, plusieurs employés. Mais alors, c'était vraiment encourageant. Je bénis Dieu pour cette belle conférence qui va finir ce matin. Il donne une belle vision de service et d'engagement. Depuis quelques semaines, on vous parle de Régénération 21. C'est maintenant, c'est pas officiellement parti, ça part dimanche prochain. Ce matin, on fait juste comme un genre de lancement ou pré-lancement. Je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais c'est vraiment dimanche prochain, le 1er février, qu'on commence Régénération 21. Et c'est quoi Régénération 21? C'est un réveil, on veut prier, on veut se consacrer pour 21 jours, vraiment passer 21 jours dans la prière, dans le jeûne, pour ceux qui peuvent, ceux qui ont la santé, peut-être prendre un jeûne d'un repas, peut-être une journée. J'entends que certains veulent peut-être essayer de jeûner 3 jours, peut-être plus, on ne sait pas. Mais on veut vraiment demander à Dieu de faire un réveil dans 3 domaines. On veut que Dieu puisse déverser sa bénédiction, premièrement dans notre vie, c'est là que ça commence, et dans notre milieu, c'est-à-dire notre famille, nos enfants, nos collègues de travail, et certainement dans notre ville. On veut que Dieu puisse agir puissamment dans notre région. Et c'est par la prière, comme on va voir ce matin, je vais vous donner quelques... on va visiter un peu l'histoire pour voir qu'est-ce que Dieu a fait dans l'histoire. Et quand le peuple de Dieu s'unit ensemble pour prier, ça, il y a 2 éléments bien importants dans tous les réveils dans l'histoire. Tous les réveils qu'il y a eu où Dieu a déversé sa bénédiction, où des milliers de personnes sont venues à lui avec repentance, en confessant leurs péchés, et sont venues pour, et que les chrétiens aussi ont eu un réveil dans leur vie spirituelle. Et ça a toujours commencé avec 2 facteurs, la prière, mais aussi la prière unie. Ensemble, on s'unit dans un temps de prière. Alors, depuis deux semaines, on fait jouer des vidéos ici dimanche matin, La Petite Vie, Alexandre et Eric qui tranquillement préparaient cette campagne pour nous parler, nous sensibiliser de cette campagne, de participer. On devait vous faire jouer ce matin la 3e vidéo. Il y avait une 3e vidéo, mais finalement, certains frères et sœurs ont été comme troublés, attristés par les vidéos. Donc, on veut être sensible à ça, certainement. Alors, on a décidé de ne pas la faire jouer ce matin, la 3e, et on veut vous demander pardon à ceux qu'on a offensés par ces vidéos. Mais cela dit, on veut s'excuser. Pour ceux qu'on a offensés, là, c'était tellement pas notre intention, mais on réalise quand même qu'on veut être sensible à ça. La semaine prochaine, donc, c'est le début, et on vous invite à vous engager dans ce élan, ce mouvement de prière en assemblée. C'est tellement important, comme on va le voir. Vous savez, Dieu est en train de préparer j'ai discuté hier soir, j'étais avec André Chartrand, Joël Delamarre et tout ça, on est en train de jaser, on est en train de regarder ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu est en train de préparer ici à l'Église. C'est évident, là, ça ne prend pas 160 de quotient intellectuel là, pour avoir le discernement. On voit que Dieu est en train de mettre en place des choses pour faire quelque chose de grand. Premièrement, il y a 480 personnes qui nous ont visités l'année passée, premiers visiteurs, des gens qui sont venus pour une première fois. Dieu prépare la construction là, d'un bâtiment, on est en négociation avec la ville. On a découvert à travers les négociations avec la ville que Brigitte se prépare. On demande un permis, faire construire des logements juste en face, des condos et tout ça. On va avoir une garderie, Dieu voulant, si Dieu ouvre les portes ici. On a une entente avec la ville pour des locations de, pour des d'espace pour devenir un genre de parcours bus. Alors, tout ça, on voit tout ça qui est en train de s'installer. On voit que Dieu est en train de préparer quelque chose de grand et on veut. Et vous savez, lorsque Dieu prépare quelque chose, c'est majeur. Il convoque toujours, il invite et il demande à ses enfants de se réunir dans un temps et dans un mouvement de prière. Chaque grand réveil dans l'histoire de l'Église, les spécialistes de l'Église le savent, ils ont vu un dénominateur commun, que ce soit Orr, que ce soit Pearson, que ce soit Michael Aiken, un spécialiste de l'histoire de l'Église. Il y a un dénominateur commun qui ressort à travers l'histoire de l'Église, que vous commenciez à travers l'Église primitive, que ce soit au Moyen-Âge. Vous savez, lorsque Calvin a commencé, vous savez que la moitié de la France était évangélique, 50% de la population. Et que tu regardes à travers l'histoire, tu regardes le temps des grands réveils. Après ça, tu avais la réforme, tu as le temps de réveil qu'on appelle. Et nous sommes dans l'Église moderne. Quand on regarde l'histoire, ça c'est en morceaux. Et un dénominateur commun à travers toute l'histoire, les spécialistes de l'Église ont remarqué que ça commençait toujours par un mouvement uni. Et on veut un mouvement de prière concerté, uni, lorsque le peuple de Dieu ensemble s'unit. Et on veut certainement, comme enfants de Dieu, prier. On voit ce que Dieu est en train de préparer. On a besoin de s'humilier devant Dieu et de demander sa grâce de faire une œuvre miraculeuse. Ça commence chez nous. Ça commence avec notre vie. Ça commence avec notre milieu. On veut que Dieu fasse un réveil dans notre vie, dans notre milieu et dans notre ville. Le puritain Matthew Henry a dit ceci. A dit, lorsque Dieu veut accorder une grande bénédiction à son peuple, la première chose qu'il fait est de le pousser en prière. A.T. Pearson, un autre spécialiste de l'histoire de l'Église, a dit ceci, il dit, il n'y a jamais eu de réveil dans quelque pays ou endroit que ce soit qui n'ait commencé par la prière unie. Alors, c'est ça, Régénération 21. C'est ça qu'on veut commencer dimanche prochain. On veut commencer ce mouvement de prière en assemblée. On veut commencer l'année dans le jeûne de la prière. Pourquoi? Parce que Dieu agit lorsque le peuple de Dieu prie. Et c'est ce qu'on va voir. On va voir cela dans Matthieu 17. Et on va aller lire ce passage, mais juste avant, si vous voulez prier, ensemble, on va demander sa bénédiction. Seigneur notre Dieu, ce matin, on veut vraiment te demander que tu puisses toucher nos cœurs et que tu puisses lever ton peuple ensemble. Ce matin, on te prie que tu puisses faire un beau mouvement, un grand réveil dans toute notre région. Ça s'est fait dans l'histoire. Mais on sait, Seigneur, c'est clair que ton peuple a besoin de s'humilier devant ta face, chercher ta face et te demander, Seigneur, de faire une œuvre puissante. Dans nos vies, d'abord, ça commence avec moi, avec mes frères et sœurs ici de l'Assemblée. Et on te demande que tu puisses faire un réveil chez nous, avec nos enfants. Seigneur, on te demande d'user de grâce envers nos enfants, qu'ils puissent te découvrir, qu'ils puissent tomber en amour avec toi. Révèle-toi à eux, Seigneur. Touche leur cœur et touche notre ville. Au nom de Jésus. Amen. Et Matthieu 17, venez me rejoindre dans Matthieu 17. On va commencer la lecture au verset 14. Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et lui dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Génération incrédule, dit Jésus, et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le, moi, ici. » Et Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant, et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » Et Jésus répond, verset 20, « C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque-là » et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. En d'autres mots, nous avons besoin de prier si on veut connaître des avancées spirituelles, si on veut connaître une percée spirituelle et aller beaucoup plus loin et avoir de grandes délivrances et voir la puissance de Dieu se manifester. On a besoin vraiment de prière et de jeûne. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Maintenant, vraiment intéressant dans cette histoire parce que les disciples ne sont pas capables. Les gens viennent voir les disciples et cet homme qui a son fils ici, qui est possédé d'un démon, on ne sait pas exactement quelle est sa maladie au juste, mais cet homme est troublé, il voit son fils qui se fait mal et tout ça, alors il l'emmène à ses disciples avant que Jésus arrive. Il l'emmène à ses disciples et ses disciples ne sont pas capables, pas capables de rien faire. Nous lisons verset 14, Matthieu 17, 14, qu'on vient de lire. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Il dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas été capables de le guérir. » Il manquait de puissance. « Génération incrédule et perverse, » dit Jésus. Jésus est fâché. Pourquoi? Il est fâché à l'endroit des disciples. Il dit, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Emmenez-le-moi ici. » Maintenant, les disciples essaient d'exorciser un démon, mais ils ne sont pas capables. Ils manquent de puissance. Pourquoi? Mais Jésus l'explique pourquoi. Jésus le dit. Il dit au verset 28, Jésus est en train de dire dans Marc, dans un autre passage, vous savez, des fois, il y a des épisodes dans le ministère de Jésus qui sont décrits dans Matthieu. On va l'écrire dans un autre évangile aussi. Et on va ajouter des fois d'autres détails, on donne d'autres éléments ici. Et on lit dans Matthieu 9, 28, je vais vous le lire. Matthieu 9, Marc, excuse-moi, Marc 9, 28, ça n'a même pas l'air le même passage, quand Jésus est entré dans la maison. Non, enfin, laissons ça là, je vais vous lire de toute façon. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandent en privé, et c'est peut-être même Marc 17 dans le fond, hein. Jusqu'à quand, Matthieu, hein? Jusqu'à quand, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Alors, les disciples ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas réussi à exorciser le démon de cet enfant-là. Alors, ils le demandent à Jésus, pourquoi on n'est pas capable? Et verset 29, Jésus répond, il dit, cette espèce-là ne peut pas sortir à moins de prier et jeûner. En d'autres mots, vous n'avez pas prié. Alors, pouvez-vous vous imaginer, les disciples essaient d'exorciser des démons, sans prier. C'est, à quelque part même, à la limite, c'est arrogant. Et là, c'est pour ça que ça l'explique l'attitude de Jésus-Christ. Il est fâché, il manque de foi, ils n'ont pas eu confiance en Jésus, ils ne sont pas allés à Jésus-Christ pour lui demander son aide, son intervention, ils n'ont même pas prié. Ça ne fonctionne pas. Ils ont oublié que pour connaître des avancées spirituelles, ça prend la prière, ça prend le jeûne et la prière. Par nous-mêmes, on n'a pas la force devant l'ennemi. On n'a pas cette force-là tout seul, on n'est pas capable tout seul de connaître ses avancées, ses délivrances miraculeuses. On ne parle pas juste de démons, on parle aussi des choses dans notre vie. Des fois, le diable nous limite dans notre vie. Il y a des choses qui se passent et le diable est puissant, il veut nous arrêter, nous ralentir dans notre progrès spirituel. Et frères et sœurs, on a besoin de prière si on veut que Dieu puisse faire renverser les barrières, ce qui rend les gens captifs ici dans la ville de Gatineau et dans toute la région. Si on veut connaître une avancée spirituelle miraculeuse, on a besoin de retourner vers le Seigneur dans l'humilité et dire, Seigneur, par nos propres forces, on n'est pas capable. On sait que c'est une œuvre de ton esprit. On veut te demander de faire cette œuvre-là pour toucher toute la région et toucher nos familles, nos enfants. Par nous-mêmes, on n'a pas la force de le faire. On a besoin de l'aide de Dieu. Et le père de cet enfant-là arrive et vient voir Jésus dans la faiblesse, très humble. Il vient voir Jésus, il fait une prière à Jésus. Dans le fond, il y a deux requêtes à Jésus. Il demande deux choses au Seigneur Jésus. Il dit, sauve-moi, sauve mon fils et aide-moi dans mes doutes. Ce gars-là a des doutes. Et je pense que ça, c'est le bon verset, oui. Dans Marc 9, 20, dans l'autre passage, justement, je parlais tantôt, voici ce qui arrive, cet homme-là, il dit, dès que l'enfant vit Jésus, alors il emmène son fils, là, l'esprit est agité avec l'esprit l'agite avec violence, il tombe, il roule par terre en écumant. C'est vraiment, tu vois ton fils comme ça, c'est épouvantable. Et verset 21, Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Ça fait combien de temps qu'il est comme ça? Et le Père a répondu, c'est depuis son enfance, depuis qu'il est jeune. Il est dans cet état second-là, fait ses crises. Et le Père continue en donnant des détails, il dit au verset 22, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu puis dans l'eau pour le faire mourir même. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Vous, la réponse de Jésus, qu'est-ce que Jésus a répondu? Il dit, si je peux. Il dit, si je peux. Et là, voici la réponse de Jésus. Il dit, tout est possible. Tout, mes amis, tout est possible à celui qui croit. Êtes-vous capable de répéter ça à haute voix avec moi, là? Tout. Hey, vous n'êtes pas convaincu encore, je n'entends pas de conviction. Moi, je veux entendre la conviction, là. Encore une autre fois, plus fort. Une autre fois. Répète ça cette semaine sans cesse. Tout est possible. Tout. Es-tu convaincu? Peut-être une autre fois. Et voilà. Tout est possible à celui qui croit. Les disciples avaient besoin d'entendre ça. Le Père avait besoin d'entendre ça. Et les gens du sentier ont besoin d'entendre ça et de se le répéter. On a besoin de se répéter. Tout est possible à celui qui croit. Alors, verset 24, dans une belle humilité. Verset 24, le Père, aussitôt le Père de l'enfant, en larmes, s'écria, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mes doutes. J'ai des doutes. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, enlève mes doutes. Je ne veux pas douter. Enlève mes doutes. » Maintenant, hey, cet échange-là entre cet homme-là avec Jésus-Christ est tellement important. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous montre l'importance de venir à Jésus humblement dans la faiblesse et à reconnaître qu'on a besoin de lui. La seule façon de connaître les grandes avancées spirituelles, de délivrance, de percer dans le territoire de l'ennemi et connaître la victoire, c'est d'avenir au Seigneur Jésus en toute humilité et dans la prière, comme cet homme l'a fait. Pensez-y. Pensez-y un seul instant. Est-ce que ce n'est pas insultant, ça, pour Jésus? Dans le fond, le gars est en train de dire, sais-tu, j'ai pas tellement confiance en toi. Le Seigneur, tu sais, regarde, il est en train de dire ça, là. J'ai des doutes, aide-moi, j'ai des doutes. Des doutes de toi. Hey, regarde la réaction de Jésus. Avez-vous remarqué la réaction de Jésus? Jésus n'a pas dit, bien franchement, tu es insultant, toi. Tu sais pas qui je suis. Je suis le Fils de Dieu, je ne suis pas n'importe qui, voilà. Toi, tu viens me voir, puis tu veux que je t'aide, puis tu es en train de me dire que tu n'as même pas confiance en moi. Franchement, regarde, va-t'en, là. Quand tu n'auras plus de doutes, tu reviendras. Est-ce que c'est ça que le Seigneur a dit? Absolument pas. Ce gars-là a cette liberté-là et Jésus le félicite d'avoir cette franchise-là, de venir à lui humblement. Mais il est allé à la bonne place, pas vrai? Est-ce qu'il n'est pas allé à la bonne place? Il est allé voir le Seigneur. Avec ses doutes, il n'a pas dit, mais j'irai pas voir Jésus. Si tu n'as pas bien confiance en lui, ça ne vaut pas la peine. Non, il est allé le voir puis il a demandé, aide-moi. Moi, j'ai des doutes, aide-moi. Mais il est allé à la bonne place, il est allé prier. Tu as des doutes? C'est ça, foutaine. Va prier. Et tu vois, le Seigneur va intervenir comme il l'a fait ici. Le Seigneur a fait de grandes choses. Lorsqu'on s'approche de Jésus en prière, dans l'humilité, avec faiblesse, on reconnaît notre faiblesse. On est en train, dans la prière, de reconnaître notre impuissance, notre faiblesse, c'est ce qu'on est en train de faire. Lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, on ouvre nos mains comme un mendiant, puis on dit, Seigneur, j'ai rien à t'offrir, mais bon sang, j'ai tellement besoin de ton aide. Et c'est ça que le Seigneur veut voir, parce qu'à ce moment-là, quand tu fais ça, tu ouvres ton cœur humblement devant Dieu, dans cet état d'humilité et de faiblesse, c'est là que Dieu commence à déverser ses bénédictions sur nous autres. Est-ce que j'entends des amens dans ça? Je sais qu'il y a de bonheur, là, mais il me semble que je devrais entendre des amens pas mal fort. Là. Dieu veut te bénir. lorsqu'on s'approche de Jésus dans la prière, qu'on reconnaît notre impuissance, Dieu veut faire déverser sa puissance sur nous autres. Mais parfois, la bénédiction n'arrive pas tout de suite, ce n'est pas apparent. Il y a quelque chose de bizarre qui arrive ici. Moi, ça aurait été tellement agréable, le Père emmène le Fils. Le Père emmène le Fils qui est tout agité, puis tout ça, puis Jésus dit « Arrête ». Puis tout de suite, le gars se lève, puis tout est beau. C'est pas ça qui est arrivé. Le fait même, ça a été pire. Regarde bien ce qui s'est passé dans Marc 9, on a des détails, on va vous lire, verset 25. Voyant courir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant « Esprit muet et sourd, je leur donne, sors de cet enfant et n'entre plus. » L'esprit sortit. En poussant des cris, l'enfant pousse des cris. Mon ami, il est encore pire qu'avant. Il pousse des cris, il le secoue très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup pensaient qu'il était mort. Alors, imagine-toi, tu vas voir Jésus avec ton enfant, tu lui demandes de faire quelque chose, Jésus, aucun problème, tout est possible à celui qui croit. Sors! L'enfant commence à se garrocher, puis tout ça, boum, tombe. Les gens le regardent, puis il a l'air d'un mort. Imagine-toi le père qui est là, puis il regarde son fils, puis on dirait qu'il est mort. T'as la foule qui est là, puis on apprend dans d'autres passages qui racontent la même histoire, on apprend qu'il y a des scribes, puis tout ça, puis vous savez, les scribes attendaient juste ça, que Jésus se plante, pour l'humilier. Moi, je vois les prêtres qui sont là. As-tu vu ça? Le Dieu a puni ce Jésus-là, moi, regarde ça, il est mort. Là, ça devait se parler. Il est mort. Il y a la foule. La Bible dit, il y a la foule, il y a plein de monde. Les gens pensaient, presque tout le monde pensait qu'il était mort. Maintenant, il était pire. Il y avait un pire qui était avant. Ça t'arrive-tu des fois? Moi, je peux te dire une affaire, il y a bien des gens qui viennent me voir. À travers les années, il y a des gens qui sont venus me voir, mais normalement, moi, j'ai accepté le Seigneur Jésus. On m'a dit, c'est ça qu'il fallait faire, j'accepte le Seigneur Jésus, le Seigneur était pour me bénir, puis bon sang, ça va encore plus mal que ça allait avant, depuis que je suis chrétien. As-tu entendu ça? T'es-tu déjà arrivé, ça? Tu commences à prier, puis c'est pire! Est-ce que je continue de prier? Ça va-tu être pire? Parce que là, c'est pas mal pire, là. Là, moi j'arrêterai, là. Je sais pas, Seigneur, là, mais là, c'est comme... Hey, combien de gens, combien de gens sont venus me voir et me dire ça exactement ça? Normalement, quand je suis venu au Seigneur, bon sang, je pensais que je pourrais être heureux, puis là, ça va mal, ma femme, ma blonde m'a laissé, puis etc., puis tout ça, ça va tellement mal, j'ai perdu ma job, tout ça. Aïe. Faut pas désespérer. Est-ce que le Seigneur est au contrôle? Absolument, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais le Seigneur est au contrôle. Maintenant, parfois, Dieu permet que tu saches assez vite ce qu'il est en train d'accomplir dans ta vie. C'est ça qui va arriver avec ce bonhomme-là. Mais d'autres fois, c'est très long. La bénédiction ne vient pas tout de suite. Tu n'as aucune espèce d'idée que c'est le Seigneur est en train de faire. Ça n'a pas de bon sens. C'est encore pire. Puis tu pries encore, c'est pire. Mais tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Il y a deux choses qu'on a besoin de savoir. On a besoin de se rappeler qui est Jésus. Qui est Jésus? Il y avait bien des gens autour. Il y avait la foule, il y avait même des rabbins, tout ça, comme j'ai dit tantôt. Parmi toute la foule qu'il y avait là, les rabbins, tout ça, là, il y en avait trois qui n'avaient aucun doute que Jésus était parfaitement au contrôle, savait exactement ce qu'il était pour faire, puis ils attendaient juste que Jésus fasse ce qu'il fait de mieux. Qu'il soit Dieu, qu'il agisse avec puissance. Vous savez pourquoi? Il y en avait trois qui n'avaient aucun doute. Pas un doute. Absolument pas. Mais là, tu vas me dire, comment ça que tu sais ça? C'est pas compliqué l'histoire qui est juste avant. Jésus était allé à la montagne qu'on appelle la montagne de transfiguration, puis il était allé avec trois disciples. Pierre, Jacques, Jean. Ils étaient en haut de la montagne, ils sont allés ensemble. Puis il y avait trois disciples qui venaient de découvrir qui était vraiment Jésus. Eux autres le savaient qui était Jésus. D'accord? On lit ça. Matthieu 17, laissez-moi vous le lire. C'est l'histoire qui est avant. Laissez-moi vous le lire. Vous l'avez ici. Jésus prie avec lui. Alors ça arrive juste avant ce qui se passe. D'accord? Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean, les frères Jean, et il les conduisait à l'écart sur une autre montagne. Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et là, tout d'un coup, ils ont de la visite. Hey, verset 3 dit, Moïse et Élie, ce grand prophète, ce grand homme de Dieu, Moïse et Élie leur apparurent. Ils ont commencé à jaser avec Jésus. Là, vous pouvez imaginer, les disciples sont là, puis Moïse, il est mort, ça fait des... Élie, ça, c'est des gars, là, que c'est les Juifs, parlaient d'eux autres régulièrement. C'était des géants de la foi, ils sont en train de parler avec Jésus. Puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe comme si ce n'était pas assez. Déjà, ça serait assez impressionnant, tu sais, que je commencerais à parler. Moïse arriverait ici ce matin, là. Je commencerais à jaser avec. J'aimerais vous parler. Moïse et Élie viendraient ici ce matin, et ça serait assez impressionnant pour chacun de nous. Mais ça, c'est pas assez, c'est pas fini. Là, Dieu s'en vient, le Père. Et nous lisons verset 5. Je pense que je viens de faire une erreur. Allez, go, je vais vous lire. Verset 5. Comme il parlait encore, la grâce, vas-tu, j'ai un autre petit coup. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ses paroles. Imaginez-vous donc, c'est Dieu qui est là. Il y a une nuée. Vous savez, dans l'Ancien Testament, la nuée, c'est la présence de Dieu. La lumière, c'est la présence de Dieu. C'est pour les Juifs, on appelle la Shekinah. C'est Dieu, c'est la lumière, c'est la gloire de Dieu. Alors, comme il parlait encore, t'as Moïse, t'as Élie, t'as Jésus, les disciples sont là, comme aux premières loges, ils regardent ça. Et là, tout d'un coup, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Alors, c'est comme si Dieu descend et entoure de ses bras. C'est ça, la nuée, la lumière, c'est la présence de Dieu, Dieu qui est là. C'est comme s'il entoure Jésus, son Fils. Il l'entoure de ses bras. C'est ça, Jésus est en plein dans le milieu. C'est ça que ça dit, il est dans le milieu. Alors, de la nuée, on pense que c'est une voix qui descend du ciel. Non, elle est là, dans la nuée, de la nuée. Là, il y a une voix. Il dit, une voix fit entendre ses paroles, celui-ci est mon. Alors, c'est Dieu, mon Fils bien-aimé, en qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Quand Jésus parle, là, écoute-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils se levèrent, ils lèvent les yeux et là, ils voient que Jésus seul. Alors voici ces trois disciples. Maintenant, ils sont descendus de la montagne avec Jésus. Et là, ils sont avec Jésus, juste à côté de Jésus. Et là, Jésus est là, puis là, l'enfant a l'air mort. Tout le monde pense qu'il est mort, puis ça n'a pas de bon sens, ça ne marche pas. Tu sais, tu t'es trompé, tu n'aurais pas dû jamais aller voir Jésus-Christ. Regarde, ça n'a pas de bon sens. Puis tous les trois disciples sont en arrière, puis sont là. Vous ne connaissez pas Jésus. Et mon Dieu. Là, ils sont là, puis regardent. Puis eux autres, ils n'ont aucun doute. Ils ne sont pas nerveux. Ils sont tranquilles. Ah! N'importe quel démon peut venir. Toutes les forces de l'ennemi peuvent arriver. Et ils voient toute la foule. Hein? Les gens sont nerveux. Sont tous là, agités. Les trois disciples sont là. Ils sont tranquilles. Pourquoi sont tranquilles devant ça? Pourquoi? Connaissaient Jésus. Tu vois-tu? Lorsque la bénédiction tarde à venir, tu sais qu'est-ce que tu as à faire? Rappelle-toi qui est Jésus-Christ. C'est ça que tu as besoin. C'est ça que Jésus a reproché les disciples. Il dit, vous manquez de foi, là. Les autres disciples qui étaient là, en bas, qui étaient en train d'exercer le ministère, c'était pas les trois qui venaient d'arriver de la montagne. Les autres, ils doutaient absolument pas. Les autres étaient là, puis ils savaient, là, ils venaient de voir. C'est comme si le Dieu a ouvert le rideau quelques secondes pour laisser entrevoir, regarde, c'est qui Jésus. Moi, je vais vous le montrer, moi, c'est qui Jésus, vraiment. Maintenant, heureusement, pour certains, ils sont bénis, tout de suite. Ils voient la bénédiction, ils voient ce que Dieu est en train de faire, comme cet homme-là. Dieu l'a levé. Jésus l'a levé. Il a guéri complètement. Mais d'autres fois, la bénédiction tarde, mais on ne voit pas la bénédiction, puis on n'a absolument aucune espèce d'idée de ce que Dieu est en train d'accomplir dans notre vie, puis ça va de mal en pire. Rappelle-toi à ce moment-là qui est Jésus. Continue de prier. Lâche pas. Continue de prier. Aie la foi, parce que tout... Avez-vous entendu quelque chose dans la salle? C'est vrai. Est-ce que vous le croyez? Tout est possible à celui qui croit. Tu ne verras peut-être pas la bénédiction tout de suite. Ne sois pas impressionné par ça. Ça va bien mal. Ne sois pas impressionné par ça. Rappelle-toi qui est Jésus. D'accord? Rappelle-toi c'est qui. Puis deuxièmement, rappelle-toi qui t'es. Rappelle-toi qui est Jésus, mais deuxièmement, rappelle-toi qui toi tu es. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Si tu es venu à Jésus-Christ pour avoir le salut, le pardon de tes péchés, puis avoir la vie éternelle, tu n'es pas n'importe qui. Tu es son enfant. Tu es un enfant de Dieu. Maintenant, si à la montagne de transfiguration, on a vu l'intimité entre le Père et son Fils, comment Dieu enveloppe son Fils de son amour, on voit tout le contraire à la croix. Tout le contraire. Tout change à la croix. Jésus dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Pourquoi tu m'as abandonné? Sur la montagne, Jésus est enveloppé, entouré de Dieu, dans une intimité incroyable avec son Père. Il est revêtu de l'amour et de la lumière de son Père. Mais à la croix, il est dévêtu et dans les ténèbres. Alors pourquoi il a fait ça? Mais la réponse se trouve dans Romains 8, 16, qui dit ceci. Ouais, Romains 10. Non, c'est pas bon ça. Mon ami, je ne sais pas ce que j'ai fait. Romains 8, 16, qui dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voici un verset tellement encourageant et réconfortant. Parfois, le Saint-Esprit, on peut l'entendre qui vient à notre esprit nous déclarer, faire cette déclaration d'amour, là. Une déclaration d'amour inconditionnelle, permanente et intime. Puis il le dit à notre esprit. J'aime bien ce que C.S. Lewis a dit. Il dit, « Dieu murmure dans nos moments de joie, mais tonne dans nos souffrances. » Tu as l'Esprit Saint qui est là, qui nous rappelle dans notre cœur que nous sommes ses enfants, qu'on a une relation privilégiée avec lui, qu'on n'est pas n'importe qui. Alors, qu'est-ce qu'il murmure? Qu'est-ce qu'il tonne à notre esprit? Il dit, « Tu es ma fille, tu es mon fils, tu es mon enfant. » Je t'aime. Je serai prêt à payer le prix pour ne pas te perdre. Et je l'ai fait. À la croix, Jésus a perdu l'affection puis l'amour de son Père et il l'a fait pour toi. Jésus te dit, à la croix, j'ai tout perdu afin que tu puisses tout avoir. J'ai perdu l'affection de mon Père afin qu'il place son affection sur toi. J'ai été dans les ténèbres afin que tu sois dans la lumière. Tantôt, Dieu enveloppait Jésus à la montagne de transfiguration avec son amour et son affection. Jésus a perdu cela à la croix à cause, parce que maintenant, en Jésus-Christ, Dieu t'entoure, toi maintenant, t'enveloppe, toi, de son amour, de son affection, de son intimité. Et il te dit, te murmure, tu es mon enfant, je t'aime. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Alors, lorsque la bénédiction tarde, on ne comprend pas ce qui se passe. Rappelle-toi qui Jésus est. Puis rappelle-toi qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Alors, on veut s'approcher. On veut s'approcher de Dieu dans la prière. On veut aller à la montagne de transfiguration, nous approcher du Seigneur. Et là, on va connaître de grandes bénédictions, des grandes avancées spirituelles. On va pouvoir affronter l'ennemi. On va pouvoir la victoire sur nos combats. Obtenir de nouvelles délivrances, de nouvelles victoires. Nous voulons demander à Dieu rien de moins qu'un réveil pour notre régénération. Jésus l'a dit, tout est possible à celui qui croit. Maintenant, posons-nous la question, honnêtement. Là. Dieu a-t-il pour nous quelque chose de plus grand sur son cœur que ce que nous voyons présentement autour de nous autres? Pensez-y, là. Est-ce que that's it? Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que Dieu n'a pas quelque chose sur son cœur? N'a-t-il pas un rêve pour toi de plus grand que ce qu'on voit aujourd'hui? Est-ce qu'il est limité? Est-ce que ça s'arrête là? Absolument pas. Dieu a de grandes choses pour nous. Quel que soit notre engagement, quel que soit notre zèle, ou à quel point nous sommes spirituellement éveillés, Dieu peut faire beaucoup plus encore. Dieu a des réserves de puissance que notre génération n'a pas encore connues. Et comme Mick Brooks a dit dans la revue Everyday with Jesus, a dit ceci, « Quoique nous soyons reconnaissants pour les pluies de bénédictions que Dieu envoie sur son Église, nous ne devons pas oublier que le Dieu qui envoie les pluies peut aussi envoyer les inondations. » Hein? Et c'est ça le réveil. C'est exactement ça et c'est ça qu'on veut faire. C'est ça qu'on veut demander à Dieu. On veut croire que Dieu peut tout. Il peut faire ça. Dieu qui inonde une ville, une communauté de croyants, une région entière, produisant de profondes convictions, produisant la repentance, la confession des péchés et des conversions en grand nombre. C'est ça un réveil. Dans son livre Center Church, Tim Keller raconte ce qu'il décrit dans le fond. C'est quoi le réveil? Il dit le réveil biblique, c'est produit trois miracles. Les chrétiens qui dorment sont réveillés, les non-chrétiens sont convertis et les non-chrétiens résistants, difficiles à atteindre, viennent radicalement et miraculeusement à la foi. Le réveil, c'est l'inondation inattendue, incroyable, envahissante de la puissance de Dieu sur une communauté de croyants. Christmas Evans, un ancien prédicateur au pays de Galles, que Dieu a puissamment utilisé à diverses occasions pour remuer tout le pays de Galles, l'explique ainsi. Il dit, le réveil, c'est Dieu qui se penche sur la braise d'un feu sur le point de s'éteindre et souffle jusqu'à ce qu'il devienne un feu ardent. Le réveil, c'est la vie à son meilleur, c'est la vie dans toute sa plénitude, c'est la vie abondante, c'est la vie qui déborde de la grâce et de la puissance de Dieu. C'est ça, le réveil, c'est ça qu'on veut demander à Dieu, rien de moins. Et maintenant, l'histoire démontre que lorsque le peuple de Dieu se met à prier en concert, ensemble, Dieu fait des grandes choses. L'histoire le prouve. La Chine, présentement, 3 000 conversions tous les jours. En Afrique, 20 000 conversions de personnes qui viennent au Seigneur Jésus tous les jours. En Amérique du Sud, 10 000 personnes viennent au Seigneur à tous les jours. 3 000 personnes viennent au Seigneur à toutes les heures, 24 heures sur 24, 365 jours par année en ce moment. C'est phénoménal. On veut ça ici. C'est ça qu'on veut demander à Dieu. Seigneur, on te demande de faire un miracle parce que de notre propre force, on n'est pas capable de faire ça. Ça, c'est une œuvre miraculeuse. Et on a besoin de ton aide pour ça. On a besoin que tu viennes et t'interviennes. C'est phénoménal quand tu regardes l'histoire. L'histoire nous apprend que deux éléments sont essentiels si on veut connaître un réveil spirituel, c'est la prière et l'unité dans la prière. Écoutez bien ce que le Dr. Edwin Orr, qui explique les circonstances qui ont précédé le grand réveil qui a eu lieu aux États-Unis, en Europe aussi, ça a traversé. Il dit, vers la fin du 18e siècle, aux États-Unis, l'alcoolisme était devenu un fléau. 300 000 étaient alcooliques. 300 000 personnes, on estimait que 15 000 personnes mouraient de ça chaque année. Les grossièretés étaient les plus choquantes. Pour la première fois depuis le début de la colonisation des États-Unis, les femmes avaient peur de sortir la nuit par crainte des agressions. Chaque jour, on volait les banques. Les églises étaient à leur déclin. Plusieurs fermaient leurs portes. Des pasteurs donnaient leur démission. Il n'y avait plus personne dans les églises. C'était en train de mourir. Ça allait si mal qu'on entendait les gens dire « Le christianisme n'existera plus d'ici quelques années, ça va mourir. » C'est fini. Le christianisme, ça va mourir. Ça n'existera plus. Un pasteur de l'époque, Samuel Shepherd, au Massachusetts, rapporte qu'il n'a pas vu un seul jeune venir à son église pendant plus de 16 ans. 16 ans. Les pasteurs démissionnaient, un après l'autre. Ils ont fait un sondage à l'université de Harvard, puis on a découvert qu'à ce moment-là, c'était tellement en déclin. La foi était tellement en train de mourir qu'il n'y avait pas un seul croyant à l'église de Harvard. Pas un seul. À Princeton, il y en avait juste deux. Les étudiants ont même pris une Bible. Ils ont volé une Bible dans une église, ils sont allés à la place publique, puis ils ont brûlé la Bible sur un bûcher devant tout le monde, centre-ville. C'est demain. Ça, c'était l'état spirituel du temps. T'es en train de mourir. Le grand historien Kenneth Scott, la Tourette, a écrit, « On aurait dit que le christianisme était sur le point d'être expulsé des affaires des hommes. » Comment la situation a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le changement est survenu par la prière unie. Les croyants ont commencé à supplier, ont fait des petites annonces. On a commencé à supplier les croyants de venir, et dire, écoute, ça n'a pas de bon sens, venez-vous-en, on va commencer à prier. Au mois de septembre, regardez bien le mois, rappelez-vous de ça, au mois de septembre 1857, dans ce temps-là où tout est en train de mourir, c'était épouvantable, au mois de septembre 1857, un homme de prière, Jeremiah Lamphere, a démarré une réunion de prière pour des hommes d'affaires dans son église à Manhattan. Il lance une invitation, fait de la publicité, tout ça, venez-vous-en. Sur une population de 1 million de personnes, seulement 6 personnes ont répondu à son invitation d'aller prier pour que Dieu fasse un réveil. 6 sur une population de 1 million. 6 personnes sont allées prier. La semaine suivante, il y en avait 14. La semaine suivante, il y en avait 23. Et là, on a décidé, ça se remplissait. Là, on a décidé d'avoir une réunion de prière à tous les jours. Maintenant, là, dans le milieu des affaires, une réunion de prière tous les jours. Au mois de février qui a suivi, là on parlait du mois de septembre, on est rendu au mois de février, au mois de février qui a suivi, chaque bâtiment d'église et chaque église municipale du centre-ville de New York était pleine, bourrée à craquer. Le phénomène est tellement fort qu'on a envoyé un journaliste sur place et il a dit, écoute, il y a un phénomène qui est en train de se passer, on ne sait pas ce qui se passe, on va faire le tour des réunions de prière, il y a plusieurs réunions de prière. Le gars était rendu juste en une heure à peu près, le journaliste a fait le tour de 12 réunions de prière, il était rendu à 6100 personnes qui étaient en train de prier. Phénomène. Et là, un torrent de prières a fait éruption, ça inondait les églises le soir. Les gens ont commencé à se convertir. 10 000 personnes se convertissaient à chaque semaine. Tantôt, l'église est en train de mourir. Il y a quelques mois, l'église est en train de mourir. 10 000 personnes se convertissaient à toutes les semaines, dans la seule ville de New York. Le mouvement s'est répandu rapidement à travers la Nouvelle-Angleterre. Les cloches des églises sonnaient à 8 heures le matin pour que les gens venaient prier. À midi, les cloches sonnaient, les gens venaient à la réunion de prière. Le soir, les cloches sonnaient et les chrétiens s'en allaient à bâtiment de l'église pour aller prier. Le réveil était tellement puissant, il y avait tellement de gens qui se convertissaient que les baptistes ont décidé de faire un baptême en plein hiver, dans la glace, ils sont allés au fleuve, ont fait des trous puis baptisaient les gens dans l'eau froide. Tu sais qu'il y a un réveil quand les baptistes agissent comme ça. C'est phénoménal. En 3 ans, une seule église, par exemple, juste un exemple, ça a l'air que c'était comme ça dans toutes les églises. En 3 ans, une église a passé de 121 membres à 1400 personnes. En un an, il y a eu 1 million de conversions. Un réveil. Juste dans la ville d'Atlantic City, 50 000 personnes. Les témoignages nous rapportent, les pasteurs de l'époque nous rappellent que sur 50 000 de population dans la ville d'Atlantic City, il y avait seulement 50 personnes qui n'étaient pas chrétiennes, pas converties, pas nées de nouveau. 50. On se sent seul. 50 incroyants sur une population de 50 000 personnes. À Portland, Oregon, d'autre bord, chaque jour, 240 magasins fermaient les portes pour laisser les gens qui allaient prier. Entre 11h et 2h l'après-midi, tous les magasins bien connus, les magasins fermaient les portes de 11h à 2h l'après-midi pour laisser les chrétiens aller prier. Les magasins fermaient. Walmart, ferme les portes. On vous annonce qu'à 11h, il y a des gens qui vont aller prier à l'église de Sentier. On ferme les portes, 11h à 2h. N'est pas ici, n'est pas magasiné, n'est pas dépensé d'argent. Allez à l'église, priez. Hey, 240 magasins. Ils ont signé, là. Ils ont signé une entente, là. Les gars, personne n'ouvre les magasins. Ils ont signé une entente, là. Phénoménal. Une église baptiste au Kentucky. Pasteur était tellement âgé, était bien âgé. Dépassé par le réveil. 1000 conversions en 2 mois. Il est mort de fatigue. Littéralement, il est mort. De surmenage. Il n'était pas capable de suivre. Il y avait un réveil, 1000 personnes qui se convertissent à son église en 2 mois. Maintenant, il y a 1000 personnes qui s'ajoutent d'ici le mois de mars, ici au Sentier. Hein? C'est arrivé. Quand le peuple de Dieu s'est uni pour prier, c'est arrivé. Il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Tout est possible. Amen. Phénoménal. Le même réveil a eu lieu en Irlande du Nord, en Écosse, au Pays de Galles, puis en Angleterre, certains endroits en Europe, en Afrique du Sud, puis en Inde. Et les effets du réveil ont duré plus de 40 ans. Il y a même des lois en ce moment en Angleterre, des lois au Royaume-Uni qui existent, qui ont été adoptées à ces époques-là pendant le réveil. Tu rentres au Parlement, il y a un gros verset dans les psaumes qui dit ça justement, que Dieu bénit celui qui s'approche de lui. La même chose s'est produite dans le pays de Galles. En 5 mois, 100 000 personnes se sont converties au Seigneur Jésus-Christ. Alors, en 1 an, aux États-Unis, il y a eu 1 million de conversions. Puis, en Europe, dans la même année, en Grande-Bretagne, 1 million de conversions. Allez me dire que c'est des coïncidences. Une dieu-cidence. Dieu qui fait ça. L'impact social est incroyable, en passant. Ça a un impact. Ça a des gens qui se convertissent, qui viennent au Seigneur. Ça a tout un impact socialement. Hey, les juges n'avaient plus de job. Les juges n'avaient plus quoi faire. Palais de justice, c'était vide. Il n'y avait plus de vol, plus de cambriolage, plus de viol, plus de meurtre. Aucune fraude, rien. On ne savait pas quoi faire avec la police. La police n'avait pas d'ouvrage. Les conseillers municipaux se sont rencontrés, mais on dit, qu'est-ce qu'on fait avec la police? Ils n'ont pas d'ouvrage. On paye pour rien. Fait que là, ils ont dit, ben écoute, va voir le servant de police, va lui demander qu'est-ce qu'ils font avec leur temps. Fait que le gars, ça va voir le servant de police, il dit, qu'est-ce que vous faites avec votre temps? Il dit, il n'y a même plus de vol, il n'y a plus personne, les cellules sont vides, il n'y a plus personne en prison. Il dit, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La police, il dit, ben écoute, il dit, tu sais, on suit la foule. La foule va à l'église. Alors là, on a téléphoné les églises, on a commencé à faire des quatuors et tout ça. Puis quand les églises nous appellent, on a besoin d'un quatuor, on envoie une chorale, puis tout ça, ils vont chanter. Hey, c'est arrivé! C'est incroyable, là! C'est ça que, tu sais, Dieu... Aïe, aïe! Hey, au fur et à mesure que le réveil envahit le pays de Galles, le taux d'alcoolisme a chuté. La moitié. Les tavernes faisaient faillite. Le transport a ralenti. Je pense que je vous ai déjà rencontré ça. Le transport a ralenti. Vous savez, dans le transport, à l'époque, c'était avec des chevaux. Il y avait des mineurs qui travaillaient dans les mines et tout ça, là. Puis là, ça traînait les chariots, c'était avec des chevaux. Puis leur maître, ça sacrait tout le temps, ça blasphémait. Les gars se sont convertis. Là, ils arrêtent de sacrer. Du jour au lendemain, les chevaux sont là. Les chevaux ne reconnaissaient plus le langage de leur maître. Fait que ça a bloqué le transport dans toute la ville. Les chevaux étaient là. Il a fallu qu'ils apprennent le langage chrétien. Vas-y, mon beau cheval. Avance. Vas-y. Le Seigneur va nous mener aujourd'hui. Avance. Belle journée ouverte. Le cheval est là. C'est incroyable. C'est phénoménal. Hey, moi, je veux de ça. Pas vous autres. Régénération 21, c'est ça. C'est le temps pour le peuple de Dieu de s'unir, de se mettre ensemble. Puis on prie, puis on demande à Dieu de faire un réveil. Un réveil dans notre ville, chez moi, là, puis dans notre ville, puis dans nos familles. Hey, la naissance hors mariage a chuté de 44 % au cours de la première année de réveil. Phénoménal. À Liverpool, en Angleterre, un peu plus haut, un témoin raconte que le réveil était tellement puissant qu'il voyait des foules se précipiter contre les portes de l'église pour aller briller. Hey, des femmes orgées, là, passaient par-dessus les clôtures, se jetaient une par-dessus l'autre, s'étaient couchées à terre. Littéralement, les policiers prenaient les femmes âgées dans leurs bras, comme ça, qui tombaient une par-dessus l'autre en foule, puis ça, puis ils les... ils prenaient les corps des madames, puis les lançaient dans l'église comme des sacs de farine, on nous raconte, pour rentrer dans l'église et les aider. Allez-y, vite, vite, la prière commence. C'est phénoménal. Hey, moi, je veux de ça. Ouais, on va faire attention à vous autres, là, mais... Ah, mon ami... Tout a commencé par un mouvement de prière. Pearson l'a dit. Il dit, chaque étape des progrès des missions tire son origine directement de la prière, car celle-ci est la préparation pour tout nouveau triomphe et le secret de tout succès. C'est là que ça arrive. Quand le peuple de Dieu se met à genoux et prie, Dieu bénit, car rien n'est impossible à celui qui croit. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, ça dit ceci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, voici ce que je te promets. Je vais l'écouter. Je vais l'écouter des cieux. Je vais lui pardonner son péché. Puis, tu sais quoi?
je vais guérir son pays. Notre pays a besoin de guérir. Moi, j'ai rencontré Adrien qui vient d'être accepté d'être pasteur à Montréal, puis il me racontait hier soir, justement. Il dit, réalises-tu que Montréal, c'est la deuxième ville la plus productive dans les films pornographiques dans le monde? Los Angeles, le premier, deuxièmement Montréal. C'est dans les tops, là. Est-ce que notre pays a besoin de guérir? Est-ce que le peuple de Dieu a besoin de se lever ensemble, qu'on jeûne, qu'on prie? Vous savez, l'expression qui dit « It's too good. When it's too good to be true, it probably is. Hein? » Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Mais sais-tu qu'avec Dieu, c'est pas le cas? C'est jamais le cas. J'aime bien ce que D.L. Moody a dit. Il dit ceci, il dit « Dieu n'a jamais fait une promesse trop belle pour être vraie. » Tout est possible à celui qui croit. Alors, comment tu fais? On veut vous inviter ce matin à vous inscrire. Comment tu fais ça? Tu t'envoies ici au tableau. Juste ici, vous avez vu le beau tableau qu'on a préparé pour vous. Il y a des beaux bracelets qui ont été préparés pour vous, des bracelets noirs. Vous les mettez ici. C'est écrit Régénération 21. Réveille notre génération. Hein? Puis là, vous mettez votre nom. Vous inscrivez, vous mettez votre nom. On a préparé ça pour vous. Vous mettez ça là, puis ça va vous rappeler de prier. Pendant les 21 jours, un rappel, prier. Prier que Dieu fasse un réveil. Amen. Alors, à la fin du service, moi, je vous encourage tout de suite. Attendez pas, allez vous inscrire. Ça commence officiellement dimanche prochain. Mais attendez pas. On a préparé 200. Hein, c'est ça? 200, Alex? Non? Moi, à peu près? Plus? OK. Fait que, allez-y. On va le remplir. Puis, allez vous inscrire. Engagez-vous à Régénération 21. Il y a une brochure qui vous a été préparée. C'est dans le bulletin. Vous allez voir toutes les activités pendant les 21 jours. Plein d'activités. On va avoir un sommet de prière le 15 février. Dimanche après-midi ici, puis on aimerait ça vous inviter tous à venir. On aimerait ça que ça soit bondé. Il y a 400 places ici qu'on vienne, qu'il y a d'autres places là-bas, ensemble, qu'on vienne, comme le temps des réveils a connu, où le peuple de Dieu s'entassait sur les portes pour rentrer, puis se précipitait pour rentrer à la réunion de prière. C'est ça qu'on aimerait voir le 15 février, venir ensemble prier, que Dieu fasse un réveil. Il y a toutes sortes d'activités. Le 24 heures de prière, c'est quoi? Pour ceux qui sont ici depuis une couple d'années, vous savez ce que c'est. Pour les nouveaux, on aimerait vous expliquer. Ça va. La semaine prochaine, on va commencer à prendre des noms. On a divisé le 24 heures de la journée en morceaux de 15 minutes. On aimerait avoir un chrétien qui est en train de prier le Seigneur pour un réveil 24 heures sur 24 pendant 16 jours. Alors, votre engagement, on vous demande simplement de donner votre nom à la porte là-bas, le cadran sera là. Ils vont même vous remettre un carton vous donnant l'heure que vous êtes engagé. Il y a des gens... je connais un frère qui fait de l'insomnie, il vient me voir, moi, je ne dors pas mes mains la nuit, puis tout. Et puis, je pense, je ne me souviens pas, c'était 2h et quelques dans la nuit, là. Puis de 2h à 2h15. Alors, vous vous engagez pour un 15 minutes. On aimerait remplir le cadran. Ça peut être 7h, ça peut être 6h le matin, de 6h à 6h15. 15 minutes, on aimerait le remplir. Ça veut dire que s'il est rempli, on va commencer la semaine prochaine à prendre les noms. Préparez-vous déjà à choisir l'heure que vous voulez vous donner. Et si on peut remplir le cadran, ça veut dire qu'il va y avoir un chrétien qui est en train de prier pour un réveil 24 heures sur 24 pendant une semaine. Et ça va être dans 3 semaines. Vous avez ici le cadran de prière du 16 au 22 février. Alors, bien-aimés, engagez-vous. Dans les réunions de prière, dans les groupes maison, on a préparé des études spéciales bibliques qui va suivre le thème, parce que le premier thème commence la semaine prochaine avec notre frère Dominique King qui va venir prêcher. Ça va être fait un réveil dans ma vie, dans notre vie. Et dans la semaine qui va suivre, votre groupe maison, et si vous n'êtes pas encore inscrit dans un groupe maison, allez au kiosque, donnez votre nom, dites-moi je vais faire partie de cette campagne-là, puis on va vous placer à quelque part. Ça va être 3 semaines collées, on a fait une exception. Souvent, les réunions, les groupes maison se réunissent aux 2 semaines, mais pour cette occasion-là, on a demandé aux responsables, à toutes les semaines, pendant 3 semaines collées, vous allez avoir une réunion, une rencontre. Et il va y avoir une étude biblique qui a été préparée par Daniel Odette, Jean-Sébastien Roy, avec les Montgomery. On a tout mis ça ensemble. Il va même avoir des conseils qu'on va mettre sur la page Internet, notre page Web, le conseil pour faire un jeûne. Si vous voulez embarquer dans l'aventure de faire un jeûne, on aimerait vous encourager à aller sur la page Internet ou dans le cahier qu'on va vous remettre si vous êtes dans un groupe maison. On va donner des conseils, comment faire un jeûne, des petites choses à faire attention, tout ça, certains conseils, d'accord? Ça va être sur la page Web. Donc, embarquons dans l'aventure, frères et sœurs. Amen. Eh bien, Seigneur notre Dieu, on veut te remercier à travers l'histoire que tu as plus d'une fois démontré ta puissance. ou des villes entières comme Atlantic City et d'autres qui se sont convertis en foule et leur vie a complètement changé. Des hommes et des femmes, parfois même qui semaient l'enfer dans leur foyer, des gens agressifs et des gens qui étaient durs, des gens qui faisaient des vols, se sont convertis et sont venus à toi, Seigneur, et ça a bouleversé l'histoire. Merci, Seigneur. Tu es un Dieu qui veut faire cette œuvre encore aujourd'hui. Tu n'as pas fini de toucher le cœur de ton peuple. Nous te prions, Seigneur, que cette assemblée, nous puissions ensemble s'unir comme un seul homme, une seule femme, en prière, qu'on jeûne, Seigneur, aussi, et qu'on te prie, et que tu fasses un réveil puissant dans notre vie, dans notre milieu et dans notre ville. Pour ta gloire, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.
Merci, maman. Il est déjà 10h30.